On s'en va dans l'évangile de Jean, qu'on va terminer à la fin de l'année. Là, on est dans l'avant-dernier chapitre, le chapitre 20. Nous sommes dans ce chapitre aujourd'hui avec la victoire de la résurrection. On va lire les versets 1 à 10 qui nous présentent ces événements. Du tombeau vide. Vous savez, Jésus se distingue de tous les chefs religieux, leaders spirituels, de plein de façons. Là. Il est le chemin, la vérité et la vie, tout ce qu'il a proclamé sur lui-même. Mais en plus, son tombeau est vide. Vous allez voir les autres, le tombeau, sont encore dedans. Jésus n'est plus dans la mort, il est dans la vie, il est vivant éternellement. Il règne au siècle des siècles. Et on va voir comment tout ça a commencé. Ça nous dit ici le premier jour de la semaine, vous êtes là dans Jean 20, on commence au verset 1, le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, il vit que la pierre était ôtée du sépulcre, elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit, « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient là, à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre. Et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi, et il vit et il crut, car il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts, et les disciples s'en retournèrent chez eux. Seigneur, on veut s'arrêter maintenant juste pour te demander de nous guider dans ce temps. Toi qui es l'enseignant, toi qui es le consolateur, toi qui es le révélateur, toi qui es le sauveur, que ces vérités éternelles qu'on considère accomplissent tous les desseins que tu as pour chacun ici. On s'en remet à toi, Seigneur. On s'attend au miracle de la vie, de la délivrance, de la paix, de la joie, de tout ce qui vient de toi, qui est bon, qui est libérateur. Et donc, on s'attend, Seigneur, à voir ta bonne main, alors qu'on s'arrête, Seigneur, à tes pieds. Bénis ce temps, merci pour chacun ici, que tu nous donnes cette joie, ce privilège de venir à tes pieds, notre divin maître. Merci, au nom de Jésus. Amen. Donc, on a lu ici des versets, évidemment, très importants. Quand on les considère dans leur ensemble, les événements que ça l'amène ici, parce qu'ils relatent des faits sur lesquels non seulement repose tout le reste du chapitre, mais aussi le constat qui est fait ici, d'abord par Marie, puis ensuite qui est validé par Pierre et Jean, disciples que Jésus aimait, évidemment, ces gens. Ces choses ici qui sont constatées, qui sont amenées, c'est le fondement historique sur lequel repose la foi chrétienne. Et c'est pas moi qui l'invente. Je vous lis 1 Corinthiens 15, 13 à 19. « S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes des faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. » Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine et vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Donc on ne parle pas d'une petite doctrine secondaire et peu importante, c'est fondamental. Vraiment ici, quand on parle de la résurrection, et l'importance de la foi, évidemment, parce que la résurrection, c'est un fait, mais la foi se l'approprie. Et on voit au verset 8 déjà que l'autre disciple, ici Jean, qui est arrivé au sépulcre. Lui, il n'est pas rentré tout de suite. Pierre est rentré tout de suite. Mais quand il est rentré, il vit et il crut. Et on ne parle pas ici de n'importe quelle foi. C'est une foi éclairée sur des faits qui sont solides, indéniables, inébranlables et indiscutables. Si on rejette les faits de la mort de Christ, sa résurrection, il faut qu'on jette tout par-dessus bord l'histoire de l'Antiquité. C'est ce qui est le plus prouvé, c'est solide, c'est pas des fables habilement conçues, c'est des faits historiques. La foi ne se base pas sur des imaginations, des belles histoires, des belles pensées, mais sur des faits historiques, comme on le voit ici. Et la foi chrétienne, c'est ça, c'est une foi qui est fondée. C'est pas là une espérance vaine, « Oh, j'espère donc que Dieu va me sauver » ou « J'espère que ce qu'il a fait, c'est ce que ça prenait. » Non, la foi chrétienne est une certitude. Et remarquez ici, on a vu Jean qui a cru, mais aussi, ça nous dit au verset 11, « Car il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. » C'est pas comme s'il a tout arrangé ça tout beau, c'est comme lui-même vivait ça, puis il n'était pas encore tout au fait de tout ce qui se passait là. Il était dépassé littéralement par les événements. Mais on voit que la foi s'accroche à des choses qu'on comprend. OK, on n'est pas souvent en comprenant des choses, mais pour être sauvé, il faut qu'on comprenne certaines choses. Puis après ça, il faut qu'on les croit. OK, donc il y a vraiment l'importance de connaître certaines choses de base. Comme on le voit avec les jeunes, on est pécheurs. Jésus est venu pour nous sauver du péché. Puis il est ressuscité parce que justement, il a vaincu la mort, puis c'est celui qui est qualifié, approuvé de Dieu pour sauver du péché. C'est le seul. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas de sauveur 2.0. Il y en a un seul, c'est Jésus. Et donc, Dieu, quand il appelle à croire, il fait appel à notre pensée, notre volonté, nos émotions. Il n'essaie pas de court-circuiter notre intelligence. Les questions qu'on pourrait avoir, des questions de cœur, des choses qui pourraient peut-être nous amener certains doutes, Dieu n'a pas peur de ça. Il nous amène les choses, puis en fait, on peut, avec la foi chrétienne, affronter ces questions sans peur. Et ça m'amène à un point important. Les sexes, c'est évident, beaucoup de religions aussi fonctionnent clairement de même. Où est-ce que le modus operandi, la façon de procéder, c'est pas de poser question, puis remet pas en question. OK? Il faut pas, tu sais. Puis ça, c'est quoi? C'est motivé par la peur. Si tu poses des questions, là, tu vas savoir, tu vas te rendre compte, il y a quelque chose qui marche pas, puis n'est-ce pas que les sexes, c'est comme ça, puis beaucoup de, même, de philosophie humaine, puis même maintenant, avec ce qu'on appelle la science, la science, elle est établie, alors que la science, par définition, c'est peut toujours se remettre en question. Fait que ça, on voit, c'est une pensée sectaire, puis c'est pas... Puis la chrétienté se détache de ça, puis historiquement, la chrétienté a été la recherche, justement, de la vérité, d'aller explorer la création de Dieu, puis essayer de comprendre. Alors que là, tu sais, c'est plutôt l'inverse qu'on voit beaucoup dans notre société. On va revenir ça là-dessus dans un instant. Mais je vais amener une dernière petite chose dans mon introduction ce matin. C'est que Dieu a décidé, parce que là on parle de la foi chrétienne, puis une doctrine fondamentale de la foi chrétienne, la résurrection, qui est basée sur les faits, OK? Mais Dieu a décidé d'envelopper cette foi-là chrétienne dans le vêtement des relations. Dieu, la foi, c'est pas quelque chose juste qui nous dit, puis qui est lointain, qui est là-bas. C'est une foi qui rentre en relation avec nous autres. Comme on se rappelle à Saint-Sylvanien, hein? Jésus, c'est Dieu fait homme, Emmanuel, Dieu avec nous, il vient habiter, il vient en relation, il vient établir la connexion, en fait la rétablir. Et on va voir ça dans un instant avec justement ici, toutes les personnes avec qui Jésus rentre en contact ici et rétablit la connexion. C'était brisé, parce que là, il avait vu la croix, il avait vu toute cette opprobre, puis là, il était complètement dépassé. Puis Jésus restaure la foi en restaurant la relation. Ça va ensemble. C'est pas comme, oh, OK, je t'en parlerai plus tard. Non, il se connecte avec eux autres. La foi, c'est foncièrement relationnel. C'est pas quelque chose qui est détaché d'une relation. ça en fait partie intégrante. Donc, non seulement la foi est quelque chose qui est bâti sur des faits historiques, mais qui est aussi ancré dans une relation avec Dieu, puis aussi une relation les uns avec les autres. Puis ça, Jean en parle spécialement dans 1 Jean, une église où est-ce qu'il y a la peur, puis le contrôle, l'incrédulité, l'orgueil. C'est une église qui ne connecte pas ensemble, qui est détachée de ses fondements historiques et relationnels. Ce n'est pas une église en santé. Mais ici, on voit Jésus qui s'occupe de son église, de toute naissante ici. Après la résurrection, on voit 3 apparitions triomphales de Jésus. Puis le titre du message, c'est « Surpris par la victoire ». Tout le monde dit qu'il était surpris. C'est le grand matin de la victoire. Et Jésus fait 3 apparitions triomphales ici. La première, c'est avec Marie, l'apparition personnelle. On va lire les versets 11 à 18, puis on va tirer quelques leçons par la suite. Donc là, on a Marie. « Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre et elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu? » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et que je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, « dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Et elle se détourna et elle dit en hébreu, « Rabouni, c'est-à-dire maître. » Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. À ce qu'on sache, quand on compare les Écritures, on voit ici l'apparition de Jésus à Marie. Puis on apprend aussi dans 1 Corinthiens, au chapitre 15, verset 5, qu'il est apparu à Céphas ou à Pierre, puis aux 12. Donc, il est distingué. Donc, d'après ce que... Puis là, peut-être que vous avez... d'autres informations là-dessus, mais avec les vérifications que j'ai faites, c'est les 2 seuls qu'on a clairement dans les Écritures où est-ce que Jésus apparaît à quelqu'un tout seul, parce que Jésus a apparu plusieurs fois après sa résurrection, mais à des groupes de personnes. Mais ici, c'est personnel, avec Marie. L'autre personne, c'est Pierre. Et je pense que c'est significatif. Il est apparu seul à ces 2 personnes-là, une fois ressuscité, et tôt après, Pierre, on ne sait pas exactement c'est quand, mais ça ne devait pas être très longtemps après. Parce que c'est des personnes qui étaient, bon, ils étaient tous dans le besoin, mais eux autres vraiment spécialement. Pierre, c'est évident, il était brisé, il était humilié. Il avait besoin de se faire rassurer. De se faire rassurer qu'il n'était pas abandonné de Dieu, que Dieu ne l'avait pas rejeté. Je pense que c'est pour ça que Jésus lui est apparu personnellement. Marie, elle, brisée par la tristesse, la souffrance, elle qui avait mis toute son espérance en Jésus. C'est la première qui est au sépulcre. Et probablement qu'elle se souvenait des paroles de Jésus qui avait dit qu'il devait ressusciter. Il l'avait dit plusieurs fois. Je pense qu'elle, ça l'avait probablement marqué plus que les autres. Donc, on est témoin ici d'une révélation unique de Jésus pour restaurer le cœur de sa fille qui était en détresse, qui était remplie de tristesse. Et ça commence d'abord par se révéler à son cœur. Elle ne le reconnaît pas, parce que là, Jésus lui parle, elle pense que c'est le jardinier. Elle n'est pas certaine de c'est qui lui parle comme ça. Puis, avant de tirer une leçon de ça, je veux juste faire un parallèle avec Naomi, dans le livre de Ruth. Naomi n'avait pas reconnu Dieu, n'avait pas reconnu la main de Dieu qui amenait la rédemption à travers Ruth. Pourquoi? Parce que l'amertume remplissait son cœur. C'est elle-même qui le disait, l'Éternel m'a rempli d'amertume. Bien ici, puis ça, c'est pas moi qui l'invente, Jésus avait dit auparavant aux disciples que la tristesse remplissait leur cœur. Et évidemment, Marie ici, c'était son cas. La tristesse remplissait son cœur, ça l'empêchait de voir clairement ce que Dieu est en train de faire, ce qu'il est en train de révéler. Donc, il y a vraiment un parallèle ici qu'on peut faire. Quand on est rempli, que ce soit de tristesse, d'amertume, de peur, ça voile notre vision spirituelle pour voir ce que Dieu fait. Mais la bonté de Dieu qui se révèle comme ça, et qu'on voit que notre besoin, quand on est rempli de ces choses, c'est de voir Dieu. C'est pas de tout comprendre ce qui nous arrive, d'avoir toutes les explications, puis que là, tout soit réglé là, dans notre compréhension. Non, c'est que Dieu se révèle à nous, comme ici. Puis il s'est révélé pas juste, « Ah ouais, c'est moi Jésus », non, il l'a interpellé par son nom. Regarde, on voit ça ici, au verset 16, quand il a dit « Marie », c'est tout ce qu'il a dit. Il y a quelque chose qui a raison. On voit que c'est personnel. Il n'a pas dit, « Hé, Marie, c'est moi, Jésus. » Juste la façon qu'a dit Marie, ça l'a touché son cœur. Donc, Jésus, c'était plus que juste dire son nom. Il s'adressait à son cœur. Son cœur a été touché. C'est comme ça que Jésus a commencé la restauration de la relation avec sa fille ici, dans le jardin après la résurrection. Et il se fait connaître à elle d'une façon unique et puissante, dans l'intimité même de son cœur. Est-ce que tu connais Dieu ainsi? Connais-tu Jésus par le Saint-Esprit? Le connais-tu comme ton sauveur? La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 5, 16, « Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si on est sauvé, on ne connaît plus un Jésus lointain. Maintenant, c'est le Jésus qui est le trésor de notre cœur, le maître de notre cœur, celui qui est notre plus grand trésor. Et je dirais que si vous êtes un enfant de Dieu, est-ce que vous gardez l'émerveillement de connaître Jésus? Que c'est la plus belle des choses, le plus grand des trésors, de connaître personnellement Dieu. Quand ça nous dit dans 1 Pierre au chapitre 1, « Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse. » Puis ça nous parle aussi dans 2 Corinthiens de rendre grâce à Dieu pour son don merveilleux. Êtes-vous émerveillé de connaître Dieu personnellement? Et on voit ici, on peut peut-être le mal le comprendre, au verset 16, il dit « Ne me touche pas ». C'était pas du rejet, là. C'était pas parce qu'il dit « Hey, touche-moi pas, là ». Parce que, bon, il explique, c'est parce qu'il faut qu'il monte à son père. C'est pas parce qu'il le rejette. En fait, je crois que, bon, au-delà de l'immédiat, la situation où est-ce qu'il fallait qu'il aille au père, je pense qu'aussi Jésus voulait lui apprendre, dès ce moment-là, à s'attendre à une autre présence, une autre proximité, pas celle de Jésus en chair et en os, mais le Saint-Esprit. Parce que c'est lui le Consolateur, c'est lui qui allait venir. La présence du Saint-Esprit, je pense que Jésus voulait préparer à développer, grandir dans cette relation avec Dieu, le Saint-Esprit, le Consolateur que Jésus allait envoyer. Et donc, c'est quoi ta relation avec le Saint-Esprit? Est-ce que tu expérimentes du réconfort quand tu es tout découragé? Est-ce qu'il te parle? Est-ce qu'il te reprend? Puis là, je ne parle pas d'affaire de voir des grandes lettres dans le ciel puis tout ça. Mais quand on a le Saint-Esprit, il nous parle. Il nous reprend, il nous réconforte, puis il nous communique. Il nous communique dans notre cœur même. Ça commence avec le salut. Hein? C'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. C'est le point initial pour arriver à être sauvé. On ne peut pas être sauvé sans la conviction du Saint-Esprit. Et d'ailleurs, c'est la marque distinctive. Si quelqu'un est sauvé, il va avoir été saisi par la conviction du Saint-Esprit, de son état, de la justice de Christ, puis de la différence éternelle que ça fait de le recevoir ou de le rejeter. Mais c'est aussi l'essence de la vie chrétienne, notre relation avec le Saint-Esprit. Dieu, le Saint-Esprit, c'est pas juste on lit un livre, on dit des prières, puis il faut qu'on aille à l'église. Non, tout ça, c'est une relation, et c'est une relation qui porte du fruit, le fruit de l'Esprit. C'est surnaturel, c'est extraordinaire, qu'on n'oublie jamais comment c'est ça la vie chrétienne, c'est une relation avec Dieu, le Saint-Esprit qui vit en nous. Et donc ça m'amène, ça c'était l'apparition personnelle. Là on voit la deuxième apparition ensuite, celle aux disciples. Donc là Jésus c'est plus juste une personne, c'est les disciples mais sans Thomas. Ok? Et on a ça dans les versets 19 à 23 qu'on va lire dans un instant. J'ai appelé ça, si la première c'était l'apparition personnelle, la deuxième j'ai appelé ça l'apparition communautaire. Ok? Jésus ici, on peut dire qu'il entame la restauration de la communauté de foi, son corps, l'Église. Ok? Et voici comment il fait. Ok? On va lire les versets, vous allez voir, c'est spécial. D'abord, au verset 19, ça dit « Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint au milieu d'eux et il leur dit « La paix soit avec vous. » Puis, il répète ensuite aussi au verset 21, donc d'abord, il communique sa paix. À deux reprises, il dit « La paix soit avec vous. » Ça, c'est quoi? C'est son réconfort. Comment il commence en leur communiquant sa paix, son réconfort. Ensuite, au verset 20, ça dit « Et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté, les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Il leur communique son identité, hein, en montrant que c'est bien lui là, qui est mort sur la croix. Et donc, il leur donne son renfort, il fortifie leur foi. En sa personne, voici, c'est bien moi qui est mort sur la croix, mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Verset 21, Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Il leur communique la grande commission. Ça, c'est son essor. Il veut que cette vie de triomphe qu'il vient d'expérimenter, elle se répande par la communication de cette vie au monde entier. Ensuite, il dit au verset 22, après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit ». Il leur communique le Saint-Esprit, c'est son mentor, celui hein, qui va les conduire dans toute la vérité puis qui va leur rappeler les paroles qu'ils ont reçues. Mais juste ici, pour clarifier, là, c'est pas la même chose que la Pentecôte. Ok? En fait, on apprend que dans Luc, au chapitre 24, verset 45, ça dit qu'il leur a ouvert l'esprit comme ça en leur soufflant son esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. Okay? C'était comme un petit coup de main pour qu'ils comprennent un peu tout ce qui arrivent ensemble parce que ces choses-là, c'est spirituellement qu'on en juge. C'est pas juste, là, je suis rendu plus smart, puis tout ça. Non, il leur a donné l'éclairage ici du Saint-Esprit, le mentor. Et finalement, au verset 23, on peut lire, « Ceux à qui vous pardonnez, c'est Jésus qui parle, « ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et à ceux à qui vous les retiendrez, ils seront retenus. » Il leur communique son autorité spirituelle, et ça, c'est son trésor. Pourquoi? Parce que c'est les clés du royaume, Jésus qui leur donne les clés pour qu'ils fassent avancer son royaume sur la terre, même une fois qu'il est parti. Là, je vous l'ai donné, j'ai descendu les versets, mais je vais vous expliquer un peu plus pour que on peut se remarquer ensemble que Jésus ici a communiqué à sa communauté de foi, à nous, ses enfants, puis ici évidemment, historiquement, ceux-là qui étaient là avec lui, il leur a communiqué tout ce dont ils avaient besoin. C'est pas juste des paroles de même qu'il a tirées comme ça en l'air, ça répondait à des besoins spécifiques. Il leur a communiqué sa paix, pourquoi? Parce qu'il était troublé. Troublé par les événements. Il était complètement dépassé, en fait, par tout ce qui leur arrivait. Donc, c'est pour ça que c'est son entrée en matière. Jésus brisait la puissance de la peur en amenant cette paix-là. Ensuite, quand il leur communique son identité, en identifiant que c'est bien lui, avec les marques, bien, il leur communique ça parce qu'il était confus. Puis il brise la puissance du doute ainsi. Parce que là, il devait dire, c'est ce qu'on voit avec les disciples d'Emmaüs. On croyait que c'était lui qui allait amener la délivrance. Voyez-vous comment Jésus brise la puissance du doute en s'identifiant, c'est bien moi. Avec la grande commission qui leur communique, ça répond au besoin du fait que c'était facile pour eux de perdre de vue leur but. Le but de communiquer ce triomphe, cette victoire. Donc, Jésus les envoie comme lui est venu par le Père, ainsi Jésus les envoyait. Jésus brisait ainsi la puissance de la timidité pour qu'ils puissent faire connaître celui qu'ils connaissent. Le Saint-Esprit, pourquoi ça communique, Jésus communique le Saint-Esprit? Parce que ça répond à ce besoin du fait qu'ils ne comprenaient pas grand-chose. Là. C'était dur de tout comprendre, puis surtout toutes les Écritures. C'est gros l'Ancien Testament, là. Puis là, même s'il avait été élevé là-dedans, de tout mettre ça ensemble, il était peur de faire le sens de tous les événements qui arrivaient, de tout mettre le puzzle ensemble. C'est pour ça qu'il brise Jésus, en donnant ainsi l'Esprit, brise la puissance de l'ignorance spirituelle, pour qu'il puisse être éclairé. Comme je l'ai dit, là, c'est pas la même chose que la Pentecôte, là. Il n'était pas scellé du Saint-Esprit, mais Jésus a ouvert leur esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. Et Jésus, évidemment, il leur a communiqué son autorité spirituelle parce qu'ils étaient faibles. Puis ils n'étaient pas conscients de ce qui était devenu en lui. Là. Je veux dire, il y avait tout pouvoir qui avait été donné à Jésus, puis Jésus leur communiquait ce pouvoir. Donc, Jésus brisait ainsi la puissance de l'intimidation. Parce que pensez-y, là, c'est un petit groupe de Galiléens. C'était tellement facile d'être intimidé, là. Par ce grand empire romain, puis OK, tout. T'es des nobody, là. Pensez-y, là. Donc, Jésus voulait dire, non, vous avez une autorité qui est supérieure à celle de l'empereur, de tous les rois, parce que je suis le roi des rois, le seigneur des seigneurs, et je vous la donne, cette autorité. OK? Ce que vous allez lier, ça va être lié, ce que délier, ça va être délié, puis pour le pardon des péchés. Donc, Jésus brise la puissance de l'intimidation sur leur cœur. Et je veux faire une petite pause là-dessus. Parce que, je ne sais pas si vous vous rendez compte, là, mais on vit dans une époque où est-ce que l'intimidation, c'est hallucinant comment on vit de l'intimidation. Puis beaucoup par les gouvernements et les médias. C'est comme un peu les grands prêtres modernes. Là. On a pitché la religion par-dessus bord, mais, tu sais, puis on parlait de science tantôt. Ah, la science dit ça, puis là, tu n'as pas le droit de rien dire. Ça, c'est de l'intimidation. Si tu oses dire de quoi, là, je vais te shamer devant tout le monde. Ça, on appelle ça de l'intimidation, OK? Je vais juste vous lire un petit quelque chose que j'ai lu. Puis je me suis dit, c'est bon pour la réflexion, je vais vous partager ça. Dans le fond, comme il y a cette puissance d'intimidation dans le monde. Bon, d'abord des crises, puis... OK, là, je vais vous dire, je vais vous mettre les choses au clair. Là. Crise créée ou non, là. Parce que je vais vous dire qu'il y a des crises qu'on a vues depuis, disons, les 20, 25 dernières années. On s'entend-tu que ça se peut que c'est un peu arrangé avec le gars des vues, puis... OK? Bon, on va pas rentrer plus que ça dans les détails, mais... Mais, OK, il y a la crise, puis ensuite, ce qu'on appelle la stratégie du différé. C'est-à-dire, ben là, on te demande de faire de quoi? Un petit sacrifice, puis tu vois, ça va aller plus loin. Comme 2 semaines pour aplatir la courbe. Ça se peut-tu que ça a commencé de même, là? OK? Puis là, après ça, il va graduel. Parce que c'est vrai, 2 semaines. Ah, c'est vrai, 2 semaines. Moi, je me rappelle, j'avais appelé mon ami Jeremy, dans les Maritimes. Ah, OK, c'est une affaire jeunesse, je pouvais y aller au mois de mars. Puis, OK, ben, gars, on va remettre ça, tu sais, dans 2 semaines, tu sais. Puis, donc, tout était beau, là. Ben, peut-être pas 2 semaines exactement, mais. Fait que, tu sais, c'est pas si pire, là, tu sais. C'est juste en attendant. Puis là, c'est graduel. Une illustration qui est devenue super connue à travers ce qu'on a vécu, c'est. La grenouille dans l'eau, vous la connaissez, hein? Si on la piche dans l'eau bouillante, elle ressort tout de suite, mais si on monte un peu graduellement la température de l'eau, elle ne s'en rend pas compte, puis à un moment donné, elle bouille, puis elle fait des cuisses de grenouille pour ceux qui sont là. Aussi, s'adresser au public comme des enfants de 10 ans. C'est vrai, ça. On voit ça beaucoup, là. Tu sais, on n'est pas intelligent, pas capable de comprendre les choses, puis OK. Ça fait partie de l'intimidation, de la manipulation. Faire appel à l'émotionnel plutôt qu'à la réflexion. Alors là, faut que vous ayez peur, tout le monde, au secours, là, puis tu sais, faut pas penser plus loin que le bout de notre nez. Puis si tu le fais, moi, te le faire savoir devant tout le monde, va te dire comment t'es un pas fin, puis comment t'es un ci, puis on traite des noms, OK? Maintenir le public dans l'ignorance et la bêtise, je veux dire, c'est pas traité entertainment, puis tout le... Mais il y a même maintenant d'autres termes, le tititainment, puis en tout cas, il y a, tu sais, maintenir le public dans l'ignorance et la bêtise, promouvoir la médiocrité, OK? Qu'est-ce qu'on voit comme... Peut-être que les Français sont un peu différents là-dessus, mais tu sais, comme, mettons, comme show télévisé ou tu sais, qui amène la réflexion, puis tu sais, comprendre les choses, puis un esprit critique, occupation double et tout ça, c'est un bon esprit critique, ça, c'est constructif, c'est intelligent et très édifiant. Renforcer la culpabilité. C'est ta faute. C'est parce que tu n'as pas voulu te soumettre que tout va mal. Puis là, mettre spécialement la faute sur le groupe des dissidents. OK? Ça, c'est de la manipulation. Les sectes marchent de même. Mais on marche comme ça, comme société. OK? Connaître le public mieux qu'il se connaît lui-même. On sait ce que tu as besoin. On veut ton bien, puis on va l'avoir. OK? Puis, évidemment, la stratégie de la distraction. Hein? Regarde ce que je fais ici avec un clown qui fait toutes sortes de niaiseries, puis tu vois pas ce que je suis en train de faire là. OK? Distraction. Pourquoi j'amène tout ça? C'est une bonne illustration. Je pense que ça nous aide à comprendre le monde dans lequel on vit, mais je pense que quand on comprend ça, on voit pourquoi les gouvernements, les médias, la pseudo-science, puis c'est drôle que ça en parle dans Timothée, la science faussement ainsi nommée. Pourquoi, je dirais qu'ils détestent et ils s'opposent tant à la foi chrétienne, puis aux chrétiens, parce que Jésus est la vérité, puis tout ce que je vous ai dit là, Jésus anéantit complètement tout ça. Parce qu'il est la vérité, ses enfants ont l'esprit de vérité, qui les conduit dans toute la vérité, puis on a la parole de vérité. Fait que tous les mensonges, c'est qui sont les mieux placés pour voir au-dessus de ça? Puis en plus, eux, ils disent que, ben moi, mon roi, il est le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Excuse, mais t'es en dessous. Fait que notre allégeance n'est même pas envers eux autres. C'est pas mal insultant pour quelqu'un qui veut contrôler tout le monde, puis tous les aspects de la vie, là. Ça colle pas, là. Comme Shadrach, Meshach, puis Abednego, là. Ça l'enrage, le roi, là, quelqu'un de même, là. OK? Je référais là, à la fournaise ardente, là, ceux qui n'avaient pas compris. Et dans le fond, c'est quoi? C'est que à cause de l'esprit qui vit dans les chrétiens puis de sa parole, ben, on devient des instruments pour démasquer le mensonge et l'intimidation. Mais ça, c'est quoi la réponse à ça? C'est pas de se rebeller puis de commencer à voir... Tu sais, parce que le monde rentre là-dedans, là, le monde qui n'a pas l'Esprit de Dieu, qui n'a pas la parole de Dieu, ça donne pas nécessairement quelque chose de mieux. Les chrétiens, notre rôle, c'est simplement de proclamer Christ étant la vérité, étant celui qui est venu pour restaurer. Et pour nous, dans des temps comme ça, on n'a pas à se laisser intimider. Dire, on ne fait pas de mal à personne. Au contraire, on amène le bien. La guérison, la restauration, l'acceptation. Avez-vous honte de ces mots-là que je viens de dire? La liberté, c'est des beaux mots, c'est des belles vérités. Puis c'est à ça que, tu sais, on est ici sur Terre for such a time as this. Ça se dit mieux en anglais, là, comme dans Esther, là. Qui sait si c'est pour un temps comme celui-ci que tu es là? Ben oui, nous, on est là, en ce moment, là, sur la Terre, pour un temps comme celui-là. Puis Dieu nous a plantés ici, dans la province qu'on est, pour que lui brille à travers nous autres. Donc, on n'a pas à se laisser intimider. C'est quand même un long point, disons, une petite parenthèse, mais je me suis dit que ça allait être bon à partager, parce que dans l'époque où est-ce qu'on est, on n'est pas sur la défensive. On reste encore et toujours sur l'offensive. Le monde veut nous intimider pour qu'on soit sur la défensive, alors que nous, non, nous, on a un message à proclamer, à mettre de l'avant. Puis on n'a pas à avoir honte parce que c'est bon, puis c'est libérateur. Puis... Donc, on ne perd pas courage, chrétien, chrétienne. C'est la fin des temps, mais Dieu n'a pas fini avec nous autres. Bon, c'est ce qu'on apprend ici avec ce que Jésus a communiqué aux disciples sans Thomas, mais là, on arrive avec Thomas sur la scène. On va lire les versets 24 à 29. Thomas, appelé Didyme, l'un des douze, n'était pas avec eux. Oups! Lorsque Jésus vint, Il vint la première fois. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, et les portes étaient fermées. Il se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Ici, c'est l'apparition, puis je ne sais pas si c'est un mot là, mais c'est parce que c'est tous des mots en R, mon affaire. L'apparition réprimandaire. Il l'a réprimandé. On voit la disposition spirituelle de Thomas, c'est le doute. Il est dans le doute. On dit en anglais « doubting Thomas ». Et Jésus qui le réprimande, OK? Il le réprimande devant tous. On ne sait pas pourquoi Thomas n'était pas là la première fois avec les disciples. Peut-être qu'il y avait juste une raison valable. Je veux dire, ça se peut, là. T'es quoi, t'as dit? Parti faire des commissions?
Non? Ah,
il y avait la gastro, on ne sait pas. Mais peut-être aussi, tu sais, peut-être qu'il était déprimé, là. Parce qu'il y en a des fois quand ça va pas bien, parce que là, ça allait pas bien. Là. Jésus est mort sur la croix, puis tout le temps qu'il s'isolait. Puis qu'il voulait pas voir personne. Fait qu'on ne sait pas, OK? Mais une chose est claire, c'est que Jésus a réprimandé son incrédulité. OK? Il n'a pas dit, ah, t'aurais dû être là, t'étais déprimé ou ça, ou OK, t'aurais dû... Mais il a repris sur le problème fondamental, l'incrédulité. Et Thomas, il s'est repenti, OK? Il n'est pas resté dans l'incrédulité. Il s'est repenti, puis il a accepté la vérité que Jésus, c'est bien lui. Et il a reconnu à la fois la divinité de Jésus et sa seigneurie, mon Seigneur et mon Dieu. Donc vraiment, bonne réponse, mon Thomas. Tu as compris ta leçon. Et c'était pas juste quelque chose qu'il disait comme ça, il se soumettait comme ça. Et quand Jésus nous reprend, quand Dieu nous reprend, la Bible nous dit dans Hébreux 12 que c'est toujours pour notre bien. Puis Dieu fait ça dans son amour. Il ne nous reprend pas pour nous ridiculiser devant tout le monde, comme avec Pierre, comme avec Thomas. C'est pour nous relever, pour nous édifier. Puis ici, il le faisait publiquement parce que l'offense était publique, comme avec Pierre. Mais sinon, il va le faire personnellement. Mais c'est toujours bien parce que c'est pour notre bien. Et Dieu nous demande simplement de nous soumettre par la foi à cette réprimande. Parce que c'est comme ça que Dieu brise la puissance de l'orgueil, hein, l'orgueil qui résiste, qui ne veut pas laisser aller, puis qui brise la puissance de l'incrédulité sur notre cœur. Tu sais, nos mécanismes de défense, là, nos façons de faire que, par la chair. Là. Quand Dieu nous reprend, c'est parce qu'il veut tout défaire ça, puis qu'il veut amener sa vie. Puis il faut voir aussi la bonté de Dieu ici envers Thomas. Parce que Thomas avait eu un coup dur, là, comme tous les autres. Là. Mais la croix, là, c'était dur. Là. Il était sous le choc. C'est juste 3 jours depuis qu'il l'a vu là, sur la croix comme ça. Puis, je veux dire, il y avait un sens de rejet. Là, quoi. Jésus nous a abandonnés. Puis, okay. Mais Dieu, dans sa bonté, dans sa patience, il rejoint son enfant. Puis encore là, lui aussi, il parle à son cœur. Oui, par la réprimande. C'est pas comme avec Marie. Mais c'est selon ce qu'il avait besoin. Puis il s'est occupé de lui. Maintenant, on va terminer avec les 2 derniers versets de notre chapitre ce matin. Versets 30 et 31, ça va être notre conclusion. Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Ce qu'on voit dans ces versets-là, c'est que la foi biblique, la foi chrétienne, elle est fondée sur des faits historiques qui sont prouvés et reconnus comme étant véridiques par des témoins oculaires. Si vous n'êtes pas trop familier avec ça, n'as-tu qu'on a déjà lu... il y a plusieurs livres là-dessus, là, mais là, j'ai les noms en anglais. Evidence That Demands a Verdict, puis Ready Defense, ça, c'est de l'apologétique. Ça, Josh McDowell, ou l'autre, le journaliste là, de Chicago. These Troubles, puis il y a un film aussi là-dessus. OK, c'est ça. Fait que ça va dans ce sens-là. Mais juste trois petites leçons pour terminer avec ça. La résurrection de Jésus est une déclaration, la proclamation de la victoire. Ça l'a surpris tout le monde, mais c'était vraiment ici ce qui arrivait. C'est la victoire et l'espérance de la victoire, parce que là, on ne l'a pas pleinement. Là, on parlait de ça hier en théologie, « Already but not yet ». Ok, Jésus a tout vaincu, mais ce n'est pas encore tous ses ennemis qui sont sur ses marchepieds. Mais on sait que Jésus, sa victoire inclut la victoire sur la mort, sur tous les effets de la chute, le péché, le monde, tout ce qui s'oppose à la vie du croyant. Jésus l'a vaincu. Puis à cause de ça, le croyant peut avoir l'assurance, la certitude que donne la résurrection, le courage de la foi chrétienne, parce que même s'il y a les hauts et les bas dans la vie chrétienne, on peut toujours revenir à ces vérités-là. Ça, ça ne change pas. Nous, on change, on peut être instable, la vie, elle change, c'est pas toujours pareil, mais ça, ça ne change pas. Puis Jésus est le même hier, aujourd'hui, puis éternellement. Et finalement, les disciples de Jésus ici ont été transformés par le témoignage puissant ici de la résurrection, comment ça a affecté leur vie, leur cœur. Et ça, ça a été pour le monde le témoignage de l'amour de Dieu, de la puissance de Dieu qui sauve, qui peut briser les cœurs les plus durs et sauver les gens perdus dans les ténèbres. Alors, ma question, c'est ceci ce matin. Comment réponds-tu à pareille victoire, à pareille révélation de triomphe sur la mort, le péché, le monde, la chute, toutes les choses mauvaises? Je vous lis Hébreux, chapitre 7, verset 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. C'est comme ça que ça commence la vie chrétienne. Aller à Jésus qui sauve. Il est toujours vivant. C'est lui qui sauve. C'est aussi comme ça que la vie chrétienne continue de se vivre. Jésus, notre intercesseur. Jésus qui est celui qui nous secourt dans tous nos besoins, qui nous invite lui-même à s'approcher de lui. Puis du trône de la grâce, pas le trône des mérites, puis le trône de « ça va bien aujourd'hui, je peux aller à Dieu, mais aujourd'hui, j'ai... la journée suivante, ça ne va pas bien, je ne peux pas aller à Dieu. » On peut toujours aller à Dieu. Dans nos bons, nos mauvais jours, dans nos pires moments, comme dans nos meilleurs, Dieu est le même, il ne change pas. On peut toujours se confier en lui. C'est ce que je vous invite à faire, vous confier en Dieu. Avec ce qu'il vous a montré pour ce matin, que ce soit pour commencer la vie chrétienne en étant sauvé, que ce soit pour la continuation de la vie chrétienne, c'est toute la même personne. C'est Dieu qui est vivant, qui sauve parfaitement ceux qui s'approchent de lui par la foi. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous as donné ce matin. Oh, ce chapitre de la résurrection, merci pour le fait que Seigneur, tu t'es présenté comme ça à ton peuple pour les restaurer. Ils étaient complètement dépassés par les événements. Ils étaient faibles, ils étaient confus. Tu as répondu à tous leurs besoins. Tu les as rencontrés, pas juste pour leur donner de l'information, mais pour amener ta transformation. Et merci que c'est encore comme ça aujourd'hui. Tu permets des circonstances, c'est toi qui décides ce que tu fais dans nos vies. Ce n'est pas à nous de te dire quoi faire, comment le faire. Mais Seigneur, merci que dans tout ce que tu fais, tu veux opérer cette délivrance, nous libérer de nous-mêmes, nous libérer de l'incrédulité, de l'orgueil, de la résistance. Merci Seigneur, tu es personnel. Puis aussi, notre Église, tu nous aimes. Et Seigneur, tu veux faire une œuvre communautaire, pas juste des choses individuelles, mais ensemble. Oh, merci Seigneur, tu es si bon et si fidèle. On veut répondre à tout cet amour par la foi. Guide-nous Seigneur dans cette réponse maintenant dans la prière de ton peuple. Avec ce qu'on a entendu, je te prie toutes ces choses au nom de Jésus. Amen.